Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Marie Folcon.
Bonjour.
De Robert Rivard.
Bonjour.
Et d'Angélique Charreau.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « Plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit ». D'entrée de jeu, je vais définir l'intelligence pour moi. Vous pourrez le faire aussi à votre tour si vous voulez. Pour moi, l'intelligence, ce n'est pas simplement la capacité intellectuelle, parce qu'on sait bien qu'il y a des intellectuels, des super intellectuels qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle, qui ne sont pas capables de mettre des gens dans leur vie amoureuse, etc. Donc pour moi, l'intelligence, elle est globale. Et pour moi, l'intelligence, c'est la capacité de se favoriser, la capacité d'une personne de se favoriser, de se rendre les choses faciles. Qu'est-ce que ça serait pour vous, l'intelligence?
Dans le contexte du travail.
Si vous savez qu'est-ce que c'est.
Est-ce que ça existe, ça?
Dans le contexte du travail, c'est faire travailler les autres.
Oui, la loi du moindre effort.
Mais c'est pas dans ce sens-là que moi, je voulais le dire. Là, mais il y a beaucoup à dire là-dessus, par exemple. Parce que quand on parle en termes d'affaires, là, il y a, dans le monde des affaires, c'est vraiment une pensée qui est exploité à son maximum, ou ce que par l'entremise, puis c'est vraiment ça, c'est par l'entremise de système. Alors, quelqu'un qui réfléchit et puis qui parle en termes de, ou qui fonctionne en termes de système, va pouvoir monter sa productivité à un tel point que ce qu'il a à faire, c'est très peu, et ce que le système fait pour lui est beaucoup, dans ce sens-là que je veux le dire, moi.
Et vous, les filles? On va définir l'intelligence au début, juste pour nous mettre sur la bonne piste.
Effectivement, ce qui me concerne, ça n'a rien à voir avec l'intellectualisme. Là. C'est sûr que l'intelligence, pour moi, c'est quelque chose de bien plus profond que tu ne trouves pas dans les livres, par exemple. Et ce serait plutôt une connexion au niveau de l'être. Et à partir de là, quand tu te connectes à l'être, en fait, c'est que tu te connectes à la source. Donc finalement, on te pose une question, tu réponds, même si tu n'auras jamais rien lu. Là. Ça fait que pour moi, c'est ça l'intelligence, être capable vraiment d'aller dans les profondeurs de l'être.
C'est une logique instinctive. Allô, Marie.
Alors, je te passe le relais, Angélique.
Non, mais je suis d'accord, hein, mais à culpa. Je suis d'accord qu'on parle d'intelligence émotionnelle, qu'on parle d'être centré avec soi-même, d'être à son écoute. Pour la productivité, je pense qu'on peut être à la fois très détaché et très productif. Pourquoi travailler moins? Si on est très créatif, on peut travailler beaucoup. Mm-hmm. Tout est une question après de plaisir de le faire.
Tout à fait d'accord.
Hein. Eh bien, nous sommes lancés. c'est ça. Moi, je démolis l'idée du travail. Parce que, c'est sûr, encore là, il faut définir qu'est-ce que moi je veux dire par travail, par exemple.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Par le travail, quand ici, dans le contexte de cette émission, quand je parle de travail, je parle de quelque chose qu'on fait pour l'argent, rémunérer quelqu'un. Et généralement, les gens n'aiment pas leur travail. Mm-hmm. Par exemple, quand j'écris mes livres, c'est pas un travail. L'émission de radio aujourd'hui, c'est pas un travail. On le fait par passion, il y a quelque chose de plus. Et qui nous guide à le faire, qui nous amène à faire ces choses-là. Donc, les gens travaillent beaucoup dans notre société. Et quand quelqu'un travaille beaucoup, il est fatigué. Il n'aura plus de temps pour ses loisirs, il n'aura pas le temps de faire l'amour, il n'aura pas le temps pour ses enfants. Pourquoi les enfants sont tous dans les garderies aujourd'hui? Moi, je pense que les parents devraient se donner beaucoup de temps s'ils veulent faire des enfants, au moins qu'ils passent la majorité du temps avec eux. Et c'est ça que je veux dire par moi, par travail, parce qu'on peut dire je suis en un travail sur soi-même, mais ça c'est différent, c'est pas la même chose. Quand je parle de travail dans cette émission, ça va être vraiment l'esclavage
Moi, ben c'est sûr, c'est ça qui, en fait, les gens vont perdre énormément d'énergie dans ce sens-là. Parce que le travail, bien souvent, comme tu as dit, ben, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas leur travail. Donc, ça va leur prendre la tête continuellement. Puis c'est énormément d'énergie prise au niveau du mental. Ça fait qu'ils vont être fatigués, mais ils sont comme dans un cercle vicieux aussi. Hein. Alors que quelqu'un qui va être vraiment à l'écoute de ce qu'il aime faire, de ses passions, ben là, il pourrait travailler jour et nuit, là, puis ça n'en finirait pas. Ils dorment très peu, ces gens-là, même. C'est... Parce que justement, ils sont connectés à la source, c'est ça. C'est une source d'énergie. Énergie inépuisable par rapport au mental où justement là d'un seul coup tu deviens fatigué, tu as une tête de zombie, etc. Puis là la vie te pèse et tout, mais c'est ça quoi.
Alors pour les gens qui écouteraient ça, ça serait quoi la solution de Zora? C'est bien joli, c'est bien beau, d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez pour justement que je sois dans mon confort, dans ma zone de confort, à être productif, à travailler pour moi finalement selon mes valeurs ou mes passions sans être épuisé et pouvoir correctement élever mes enfants?
Bon, ben, c'est une question en trois mots. Je les aime, ces petites questions-là, simples.
Juste pour toi, Robert.
On attend la réponse, impatiemment.
Écoute, je ne veux pas prétendre que j'ai une solution à une question complexe puis qui possède beaucoup de différentes facettes. Mais c'est profond comme sujet parce que d'un côté, on a un système, on vit dans un système économiquement stressant. Et où l'homme doit gagner sa vie pour avoir son mérite. Donc, on doit faire tout ce qu'on peut pour conserver un toit, garantir de la nourriture sur la table, etc., etc. Déjà, il y a des pressions qui sont proposées. Et puis, on ne vit pas dans une société qui se veut favoriser l'être humain. On n'est pas dans une société qui veut d'abord et avant tout garantir que l'être humain va opérer à son potentiel plein. On est une société, dans une certaine mesure, qui fonctionne avec le traumatisme et qui fonctionne avec des pressions économiques artificielles causées par plusieurs paliers d'intervenants. Donc, à travers tout ça, propos sur le bonheur.
Non, mais là, tu n'as pas donné la réponse, là, du tout.
Oui, mais je mets ces lumières-là.
Il pourrait être politicien.
Il
a tourné autour.
Quand il a fini sa phrase, on ne se souvient plus du début.
Moi, quoi la question?
Je voudrais donner un exemple. Oui. Par exemple, moi, ça m'avait beaucoup marqué quand j'ai étudié les rêves. Je suis tombé sur des livres de rêves et qui parlaient beaucoup des Senoï, qui sont des maîtres rêveurs. C'est des tribus, je pense, en Amérique latine. Et puis eux, ils ne travaillent pas plus que 2 heures par jour. Ces 2 heures-là, c'est pour aller chercher de la nourriture. Ils ne vont jamais travailler plus parce qu'ils vivent au jour le jour. Ils savent qu'ils vivent dans un milieu riche, comme la jungle, qui fait qu'ils n'ont pas besoin de s'en faire pour demain, un peu comme les animaux en général, qui vont manger au jour le jour. Le reste du temps, ils s'amusent. Ils font l'amour, justement ce que je disais tantôt. Ils racontent leurs rêves, ils font des jeux. Et puis ces gens-là sont reconnus comme étant les plus heureux. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de guerre intestine.
Ce que toi, tu proposerais, ça serait plutôt de renouer avec un rapprochement de la nature, plutôt un redéfinir la situation sociale?
Moi, je suis pas nécessairement de se rapprocher de la nature telle qu'eux autres. Je n'irais pas retourner comme ça dans la forêt. J'aime la ville. Je suis quelqu'un qui est en ville. Mais je prends une oisiveté créatrice. Et moi, je l'ai fait. Pendant 10 ans, je n'ai pas travaillé. Et pourtant, j'ai produit. J'ai produit beaucoup. Alors que tous ces gens qui travaillaient comme des fous pendant ces 10 ans-là n'ont pas produit. Ils ont travaillé, ils ont fait de l'argent, mais ils l'ont dépensé probablement parce que de toute façon, ils devaient de l'argent aux banques en général, alors que moi j'ai produit, à mon âge maintenant, j'ai plus d'une centaine de peintures de fées. À cette époque-là, j'ai fait plus de 300 spectacles dans les cafés, les bars, j'ai publié moi-même plus de 12 albums de BD, 5 livres avec du texte et plus là, les émissions de radio, et ça c'est sans compter tout ce que je faisais aussi. J'étais très très productif, mais je ne travaillais pas. Et moi, j'ai toujours fait la différence. Pour moi, le travail n'est vraiment pas une forme d'intelligence.
Oui, c'est sûr, mais là, on en avait déjà parlé. C'est parce que tu n'avais vraiment pas le stress de payer les factures, quoi que ce soit, parce que tu étais sur le BS. Donc déjà, c'est sûr que c'est une béquille pour pouvoir produire, là, c'est sûr. Mais t'avais mais qui... la... Bah oui, c'est sûr.
Moi,
t'avais
moi,
pas
je
le
vois pas comme ça. Là.
Ouais, d'accord, mais c'est quand même un fait. T'avais pas le stress quand même de payer ci ou ça que la plupart des gens ont parce qu'il y avait quand même un certain montant d'argent qui rentrait.
Ben, si moi, je ne l'avais pas, les autres ne devraient pas l'avoir non plus. J'ai démontré que c'était possible de vivre très, très simplement en n'ayant pas de besoin. Des fois, tu parlais justement qu'un des problèmes, c'est les besoins. Moi, je pensais plutôt les faux besoins de la société. Je n'avais pas besoin d'un auto, je n'avais pas besoin d'une maison, je n'avais pas besoin d'assurance, je n'avais pas besoin de ces choses-là. Alors, j'ai pris ce qu'on me donnait, j'ai pris ce qui était dans les rues, pour avoir du temps pour produire. Et à mon âge, je regarde les gens qui sont comme moi ou qui ont mon âge, et puis ils n'ont aucune production. Ces gens-là, c'est rien, ils n'ont pas d'œuvre. Puis si tu n'as pas de production, tu n'existes pas vraiment.
Mais la simplicité n'empêche pas le plaisir d'avoir plus que le minimum. C'est que si on parle de plaisir total, même dans une intelligence émotionnelle, je ne vois pas pourquoi les extras qu'on pourrait dire, oh, je vis simplement, alors donc je ne m'offrirai jamais une soirée au spa. Tout ça, ça fait aussi partie d'une détente, ça fait aussi partie d'un plaisir qui est nécessaire pour l'âme.
Mais le problème, ce n'est pas le plaisir, c'est l'attachement que crée le plaisir. Donc à partir de là, si tu es dans le détachement, c'est sûr que tu peux avoir n'importe quel plaisir. Moi, j'ai le plaisir à faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, mais je suis totalement détachée. Donc en fait, je ne vais pas avoir l'attachement qui suit le plaisir.
Mais laisse-moi te poser une question, Nicolas. Et puis si on a assez le temps
peut-être,
pour
répondre. Ouais.
Mais dans un sens, quand tu partages ce parcours, où ce que tu étais... sur l'aide sociale et puis que tu n'as pas eu à travailler comme tel et puis que tu as été très productif. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, est-ce que tu encourages de faire un parcours, les gens à faire un parcours similaire ou une version semblable de quelque chose comme ça?
Eh bien, je vais répondre après la pause.
Parfait.
En attendant, on vous laisse avec la chronique d'Angélique, le bonheur dans toutes les directions. Et après ça, nous reviendrons avec ce sujet. Plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit.
Bonjour, ma chronique aujourd'hui répondra à la demande de Cécile. Je me trouve ordinaire, j'aimerais savoir s'il existe une petite formule pour augmenter son pouvoir de séduction et se trouver attirante. L'image que l'on a de soi reflète notre estime de soi, dit-on. Mais sommes-nous pas également non-objectifs, complètement à côté de la véritable valeur qui nous habite? Il est plus difficile de se donner le mauvais rôle ou une mauvaise appréciation. Sinon, cela ressemblerait à de l'égocentrisme, pensez-vous? Voici peut-être le réel problème. Est-il question de jugement? Soyez plus ouvert avec vous-même. 1. La beauté, c'est subjectif à chacun. Et 2. Si cela doit être un critère pour apprécier la vraie personne que vous êtes, il est temps d'écouter ce que votre cœur a en pensé. Pour que Cécile retrouve le sourire à la lumière de la découverte de son profil beauté intérieure et qu'elle s'apprécie à sa juste valeur, je propose la solution jeu qui la va. Pour jouer, il vous faut préparer 4 catégories, plus une feuille de papier et un stylo. 1. Les aliments. Un citron, une prune, du chocolat, des arachides, des marshmallows. 2. Les tissus. Coton, velours, tulle, satin ou soie et la laine. 3. Les ustensiles. Un couteau, une fourchette, une petite et une grande cuillère, ainsi qu'un bol. 4. Trois styles différents de musique. Une relaxante, une rock et une salsa. Disposez les aliments, les tissus et les ustensiles sur une table bien étalée pour que ce soit clair et pratique. Vous l'avez compris, vous allez participer à définir ou à vous reconnaître dans un profil beauté intérieure, tel un trait de caractère. Ouvrez-vous, oubliez le temps de l'exercice-jeu, tout ce que vous croyez connaître sur votre potentielle beauté. Faites peau neuve. Maintenant, commencez. L'exercice consiste à rassembler un élément de chacune des catégories en une combinaison. Qui va avec qui? Exemple, je prends un citron, je l'associe avec un couteau, le tissu de velours en écoutant du rock. En sachant qu'il y a 5 éléments dans chacune des catégories, vous composerez donc 5 combinaisons. C'est instinctivement que vos choix se font et qu'un profil abstrait se dessine. Il serait trop facile et sans effort si l'on vous offrait la solution aussi rapidement. L'objectif étant de vous inviter à vous écouter. Inscrivez vos combinaisons sur la feuille de papier dans l'ordre de vos sélections. Ensuite de ces 5 combinaisons, créez-en une seule et répondez à cette question. Quel est mon film préféré cette année? Voilà, aussi simple que cela. Vous avez animé la flamme beauté intérieure. Pour connaître quelles définitions correspondent à vos choix, écrivez-moi sur propos sur le bonheur.com ou laissez agir la magie de votre exercice. un peu comme des effets secondaires. La solution « Je qui l'ava » peut également servir pour toute forme de question sur les valeurs intérieures. Je vous souhaite un bon jeu, à très bientôt, bye bye.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit. » Alors, je vais répondre à la question de Robert qui me disait « Est-ce que j'incite les gens à faire ça? » J'incite tout le monde, oui, à prendre un temps pour eux, n'importe quelle manière qu'ils peuvent. Je pense que ne pas travailler, ça serait très important. Je suis de ceux qui croient qu'on nous vole notre enfance. Dès l'âge de 4 ans, on nous fout à l'école. Moi, je crois que jusqu'à l'âge de 12 ans, on devrait jouer. Et les parents devraient s'occuper de nous, jouer avec nous, nous apprendre à lire, nous apprendre à écrire. Et je crois qu'on aurait une société beaucoup plus belle. Donc moi, j'ai considéré qu'on m'avait volé mon enfance. Et quand j'ai fini l'école à 23 ans, j'ai dit « Foutez-moi la paix, je veux me trouver, je veux penser à moi. » Qu'est-ce que le Bouddha a fait? Quand le Bouddha a compris qu'il vivait dans une cage dorée, il est sorti du château de son père, il est parti, puis il a vécu simplement, il a médité jusqu'à temps qu'il atteigne l'illumination. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis assis, moi, ici à Montréal, et j'ai dit « je bouge pas tant que je me suis pas éveillé, tant que je sais pas qu'est-ce que je suis, puis tant que j'ai pas une raison supérieure de travailler, parce que pour moi, le travail... » C'était vraiment la stupidité. Je regardais tout le monde travailler, puis je les trouvais très, très ignorants parce que, en tant qu'artiste, si j'avais travaillé, je pourrais pas dire aujourd'hui que j'aurais écrit autant de livres, j'aurais fait autant de bandes dessinées parce que je l'ai fait justement parce que j'avais du temps. Aujourd'hui, je travaille. Et puis, c'est difficile. J'avance à pas de tortue dans mes livres parce que je suis fatigué le soir. J'ai travaillé toute la journée. La fin de semaine, je suis souvent fatigué aussi.
Donc, pour être l'avocat du diable, si tu me permets pour une petite seconde.
Avec une voix pareille, tu peux.
Wow. Donc, est-ce que tu... comment vois-tu l'issue de secours ou comment vois-tu le changement pour te ramener encore plus de nouveau? Parce que j'imagine que qu'est-ce qu'on poursuit, ce serait justement baisser le ratio.
Moi, j'ai une stratégie. Chacun devrait avoir sa stratégie. Ma stratégie à moi, c'est de me faire connaître grâce à mes émissions, à la radio, à la télé, pour être capable de vendre des livres. Le jour où je vais vendre des milliers de livres, j'aurais pas à travailler parce que mes livres sont faits. J'ai organisé des sites internet qui vont fonctionner par eux-mêmes et ça va rouler. Là, je suis dans une phase entre les deux où là, c'est nécessaire pour moi. Moi, je me dis toujours, pour savoir c'est quoi ton vrai travail, si je te donnais 1 million, qu'est-ce que tu continuerais à faire puis qu'est-ce que tu arrêterais? Ce que tu continuerais, ça serait un travail, mais un vrai travail dans le sens du plaisir. Le reste, tu laisserais de côté.
C'est pour ça que la plupart des gens, quand on leur pose cette question-là, si je te donne l'argent, c'est une bonne référence quand même. Si je te donne 1 million, est-ce que tu continuerais dans ta job? La plupart des gens, ils vont dire « Ah oh, non, je quitte ma job ». D'ailleurs, c'était la publicité, là. Au revoir boss, bye bye boss. Là. La plupart des temps, les gens, ils veulent vraiment partir de leur travail. Tu sais.
Mais je voudrais soulever le fait de l'éducation, c'est vrai que pour moi, je trouve ça important. Maintenant, je te rejoins c'est que quand il y a un côté obligatoire, voilà, dès 4 ans ou 6 ans, tu dois suivre un cursus jusqu'à tes 16 ans. C'est obligatoire. Je pense que l'obligation déjà crée une pression. Moi, je gère beaucoup de stress chez les étudiants et c'est vraiment un facteur, l'obligation.
Et combien d'entre eux se suicident à cause de cette pression?
Il y a un très gros pourcentage de suicides chez les adolescents, c'est vrai. Il y a ce facteur. Il y en a plein d'autres. Hein. On ne va pas tous les nommer, mais... Celui-ci en fait partie, en tout cas.
Non, mais c'est sûr que... comment je pourrais dire ça? C'est tout à chaque fois, c'est la même chose, mais c'est la structure. À chaque fois, comme tu dis, on est dans une cage dès leur bas âge. Oui. C'est parce que c'est tout de suite, ils doivent nous mettre en cage tout de suite pour être esclaves le plus tôt possible, pour nous manipuler
pour être productif,
encore
hein.
Le mieux. Productif dans leur sens à eux, et pas dans le sens de l'être, et c'est sûr.
Et tu t'en rends pas compte si tu fais comme on te dit. Tout, quand tu suis le troupeau, pas de problème. Moi, quand j'ai dit non merci à 23 ans, j'ai vraiment eu une levée de bouclier. Mes parents, toute ma famille éloignée, le gouvernement, les amis. Je te jure, j'étais vraiment... j'étais un paria, là. Je voulais pas travailler. Ça va toujours être cet argument qu'eux me payent pour ça. Mais ça, c'est ridicule, cet argument. Moi, c'est pas, ça fonctionne pas, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi, la fois, t'as mentionné... le plan C de
Étienne Chouard.
Étienne Chouard. Étienne Chouard en parle aussi. Mm-hmm. J'ai vu des vidéos sur lui, justement, où il démontre que cet argent qu'il nous retire par les taxes, ils vont directement dans les poches des banquiers. Oui. Ça va même pas dans la population.
Donc tu sais, c'est ça qui m'amène à penser que, bien que tu mets ou t'encourages, ben, tu dis pas exactement quoi faire, mais tu...
Ben oui, j'encourage à dire arrêtez tout de travailler.
Non, ce que je veux dire, c'est que la provision du bien-être social, c'est comme une condition... appelons ça une certaine partie du système social qui existe là, comme bouée de secours. Appelons ça comme ça, mettons. Je pourrais donner un nom. Mais ça ne fait pas partie de la norme où ce que tout le monde s'attend à utiliser ce programme-là, dans ce sens-là. Mm. Donc, dans le même sens, donc ça, c'est pas une... Donc, si on mettrait... Est-ce que je... Parce que des fois, c'est un bon... on peut faire une proposition inverse où ce qu'on dit, si tout le monde le ferait, est-ce que ce serait bon comme choix? T'sais, si tout le monde poursuivrait leur créativité, si tout le monde poursuivrait leur appel intérieur, si tout le monde ferait de la méditation, il y a des choses vraiment, si tout le monde ferait comme tout le monde, ça serait, on peut voir qu'il y a bien des pièges là-dedans. Mais dans le cas du bien-être social, on ne pourrait pas dire que ce serait une bonne idée. Mais dans le cas de ce que tu viens de mentionner, d'Étienne Chouard, de trouver la cause des causes, ça, c'est important de travailler ça.
Mais il y a un minimum aussi que je tiens à dire par rapport pour les gens, de les aider, parce qu'on parle, mais on ne donne pas tellement de solutions. Là. Déjà, il faut savoir qu'au niveau du mental, là, c'est une illusion. Déjà, beaucoup de gens vont penser. Et c'est une illusion, ils vont croire qu'ils sont en train de produire, parce qu'ils pensent. Alors qu'en fait, ils sont immobiles et ils ne font rien. Donc déjà, je leur dirais d'arrêter de penser à leur projet, de commencer à poser des actions, des gestes. Ensuite, arrêter aussi de se plaindre. Le nombre de fois que vous avez pu vous dire, en vous levant le matin, « Oh là là, je ne peux pas aller au travail. » Tout ça, c'est le mental, en plus de ça, dans le négatif. Donc là, ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Donc déjà, c'est des petites choses comme ça à intégrer dans votre vie graduellement pour essayer d'avoir plus de légèreté et assumer de plus en plus qui vous êtes en tant qu'être. Et vous allez voir que la vie va déjà être beaucoup plus facile. Et ensuite, vous allez en fait trouver du temps, regarder moins la télé parce qu'il y a full de négativité là-dedans. Là. Couper des affaires où vraiment ça sert vraiment à rien et puis vous en avez en masse. Quand tu regardes bien, là, observez-vous, là, vous allez voir, vous allez en trouver du temps pour aller vraiment dans les petites choses, dans la récréation comme on parlait, des jeux ou n'importe quoi avec vos enfants. C'est sûr qu'il y en a. C'est juste c'est votre mental qui vous fait croire qu'il y en a pas parce que c'est sa job à vous mêler, à vous rendre confus afin que vous qui puise toute l'énergie pour vous rendre fatigué et vous soyez encore plus dans le système, dans la structure. Voilà.
Je suis assez d'accord qu'il faut inviter à une certaine légèreté, puis on peut pas changer le monde, mais par contre, on peut mettre une nuance. On peut tout simplement dire, essayez de vous écouter, essayez de trouver votre juste équilibre. Au niveau de la télévision, je suis d'accord que trop d'électricité, à un moment donné, ça peut craquer. Mais tu sais, depuis des centaines, des milliers d'années, ça a toujours existé le côté spectacle. Un peu, les gens allaient au théâtre, ils allaient aux arénas, ils allaient voir une pièce, un opéra, peu importe. Et ça aussi, ça peut avoir un côté détente. Faut quand même pas tout repousser dans le sens où la modernité avance. C'est-à-dire qu'avant, on se présentait dehors sur la place publique. Au jour d'aujourd'hui, on se met devant sa télé. Mm-hmm. Mais je veux dire, il faut y prendre simplement le côté bénéfique.
Moi, j'ai donné un exemple d'information. J'ai pas parlé spectacle. Hein. J'ai parlé télévision avec les informations, la négativité. Donc ça, on peut s'en abstenir.
Est-ce que tu penses vraiment que toutes les informations ne sont pas bien transmises? Est-ce qu'il y en a pas qui sont honnêtes? J'ai jamais dit toutes.
Et déjà, mais en grande partie, de toute façon, qu'est-ce que c'est les informations à part juste dire à quelqu'un d'autre, répéter ce que tu as entendu, que l'autre a entendu, et etc. etc. Mm-hmm. C'est vraiment boule de neige dans la négativité. Ça sert à rien.
De toute façon, on sait que les médias ont un agenda caché.
Exact.
Parce qu'ils sont possédés par les plutocrates qui ont un agenda, eux aussi.
Ben oui.
Donc, j'ai vraiment pas confiance quand j'entends les politiciens me parler. J'ai le goût de vomir. Mm-hmm. Franchement, je sais qu'il n'y a rien de bon qui sort de là. Et quand on me dit qu'on a besoin d'eux, qu'on a besoin d'une société, c'est pas vrai. Moi, je crois qu'on est capable de s'organiser en communauté et de vivre, de moins travailler. Parce que si je reviens au Sénoy, je peux donner cet exemple, mais si je reviens à moi aussi, bon, on a parlé d'aide sociale, mais moi, je suis quelqu'un qui est capable de demander. J'ai une grande facilité et ça m'est arrivé de demander sur Internet de l'argent pour publier mes livres. Et j'ai reçu de l'argent. L'année passée, j'ai reçu près de 2 500 $ d'une femme qui était dans ma vie, qui m'a donné 2 500 $ pour publier des livres. J'ai pris l'argent et je l'ai directement envoyé chez l'éditeur. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de demander. Et j'ai pas travaillé. Alors que quelqu'un d'autre aurait travaillé comme une bête à un salaire minimum pour ramasser le même argent, alors que moi... Moi, je suis intelligent. C'est ça que je veux dire. Pendant que moi, je m'amuse puis je produis, les autres travaillent.
Mais je vais en profiter, Didit. Vous auriez pas quelques dollars sur vous?
Il faut que ça soit concret. Puis tu sais, faut pas que ça soit égoïste non plus. Dans mon cas, c'était vraiment, j'avais pas d'argent.
Faut que ça soit relié à la productivité. C'est ça que tu veux dire?
Ben, pas nécessairement. Faut que ça soit relié dans le fait que je veux pas travailler pour des choses comme ça. Si ça se fait naturellement, puis je peux recevoir l'argent, je peux le faire. Si je travaille, je vais le faire le plus facilement possible. Ça m'est arrivé il y a 10 ans, j'avais besoin de 1 500 $ pour publier 500 copies de mon CD que je venais de faire. J'avais eu, d'une part, j'avais reçu l'argent du gouvernement pour le publier, mais il me manquait 1 500. Donc, cette semaine-là, j'ai reçu un contrat de 1 500 $ pour faire 2 murales en une semaine. On m'a payé cash. J'ai pris l'argent, je l'ai envoyé directement chez l'imprimeur. Il m'est rien resté à part les CD. Garde ton idée parce que là, vraiment, on est à la limite. Alors, on va écouter une chanson d'Alexandre Poulain qui s'appelle « La cigale et la fourmi ». Et on revient après la pause avec ce thème. Plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit. Et pour les auditeurs de Radio Centre-Ville, on vous invite à venir écouter la fin de l'émission sur proposurlebonheur.com.
Il suffit de chanter pour passer le temps, puis croire que tout peut t'arriver si tu y crois vraiment. La fourmi, de son côté, venait d'une famille d'ouvriers qui avait connu la grosse misère, mais c'était fini, disait son père. Je veux plus que tu fréquentes les cigales. C'est du petit monde qui font rien de bon, se prélance le jour sous des pétales. Au lieu de faire des provisions, puis ils font juste chanter pour passer le temps. Au lieu de se lever puis de travailler pour prendre des répits, des placements. Et si leur route est devenue deux sentiers, deux vies, deux mondes, puis deux quartiers. La cigale appelée par le grand air, la fourmi par la fourmilière. Comme partout le temps a fondu, chaque jour comme une année. Et quand l'automne est apparu, la cigale a frappé sans retenue. Je gâche que t'as juste chanté pour passer le temps, dit la fourmi, endoctrinée par le faux pouvoir de l'argent. Ben traite-moi du sang-cœur si tu veux, mais t'auras rien de mes provisions. Même si j'en ai assez pour deux, le paye pour tes rêves pis tes chansons. Je pense qu'on s'est mal compris, dit la cigale à la fourmi. J'suis pas venu pour te quêter de la bouffe, mais pour te dire que je prends la route. Hier au cabaret du marais, René Lange de Lille m'a découvert. Je te dis pas ça pour faire mon vrai, mais à cette heure, il gère ma carrière. La fourmi lui répond de sa voix noire. Si tu vois Jean de la Fontaine, envoie-les donc promener de ma part. Sa fable avalait pas ses scènes. J'aurais tant voulu chanter pour passer le temps d'être juste t'accompagner en duo comme dans le temps. Au lieu de se chouir prisonnier, la présence de sa
sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit. » Un autre exemple que j'aurais aimé donner, c'est cet exemple des grands hommes d'affaires. Il y a des gens riches, il y a des gens extrêmement riches, et c'est drôle parce que les gens qui sont extrêmement riches, généralement, ne vont pas travailler plus que 10% de leur temps. Le reste du temps, ils sont sur les terrains de golf, ils s'amusent, ils font du PR, et ils délèguent. Les petits hommes d'affaires, c'est ceux qui se crèvent au travail, qui vont travailler 90 % du temps, mais ils vont faire une crise cardiaque à 50 ans. Et ils ne sont pas intelligents. Donc, si on regarde un modèle au niveau des affaires, et ça n'a pas quelqu'un peut être très, très riche, mais en général, s'il est intelligent, il ne va pas travailler. Comme ces gens qui sont très riches et qui font juste investir leur argent dans des... qui sont les... en haut, là, ceux qui font juste emmener l'argent puis qui prennent même pas de décision.
Des investisseurs.
Ces gens-là s'amusent. Ouais. Ils font du PR, etc. Pour moi, c'est une forme d'intelligence.
Ben, c'est parce que t'as soit le travailleur, même le travailleur indépendant, puis leurs revenus dépendent de leur productivité, puis ça s'arrête là. Puis ça, j'inclus le médecin, l'avocat. Les professionnels sont là-dedans aussi. Parce que moi, je pense, quand je regarde ça, en termes de système, puis le test, c'est si tu te fais rouler par un autobus, est-ce que ton revenu continue, tu sais? Alors, non pour le travailleur, non pour le professionnel. C'est dans les compagnies que c'est là que la différence commence à se faire, parce que justement, il y a des systèmes, il y a des procédures. Et comme tu disais tantôt, le CEO, le chef d'entreprise, il peut prendre une vacance, il peut aller sur le terrain de golf, il peut faire ce qu'il veut. Et le reste de la machinerie continue pareil, parce qu'il y a des systèmes, il y a des procédures. Donc, c'est ça qui fait la différence entre quelque chose qui est systématique et puis qui fonctionne, et quelque chose qui est juste la brûlette, la sueur de son front. La plupart des gens ont tendance à être travailleurs autonomes, travailler pour une compagnie, dans la majorité des gens. Et tant que tu es dans cette opération-là, c'est sûr que ta productivité et ton revenu sont égales. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de multiplicateur. Alors, je pense que mes collègues font un signe qui veulent dire quelque chose.
Non, c'est ça. Tout à l'heure, je voulais mettre la notion justement sur l'argent, l'économie. On parlait d'éducation, on parlait d'enfants, on parlait de but. Le but, on se doute bien que plus vite vous êtes dans un système où il faut que vous soyez productif, il faut que vous soyez dépensiers. Il faut que vous soyez ceux qui sont dans la consommation.
Mais le mot production, il n'est pas utilisé dans le sens où moi j'utilise maintenant au niveau philosophique, parce qu'on parle beaucoup d'être productif, justement dans le sens où Robert nous dit...
C'est la production négative peut-être, mais il n'empêche que le but de la société, c'est que tout le monde soit assez productif, dans le mauvais sens peut-être, mais le soit pour une question économique.
Parce que celui qui est très productif dans une entreprise va arriver chez lui ou à la fin de sa vie, il n'a rien. Je regarde mon père, par exemple, ou des gens comme lui, il n'a rien. Il n'a rien qui lui appartient. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé pour une entreprise toute sa vie, il a vendu des choses. Je veux dire, ça a été correct, il a ramassé de l'argent. Moi, à son âge, je vais avoir une œuvre. Je vais avoir quelque chose à léguer à l'humanité. Je vais avoir quelque chose qu'on sait qui va me faire vivre. Tous les livres que j'imprime présentement, je les mets dans des entrepôts. Et tôt ou tard, j'attirerai l'attention. Je vais créer un scandale. Et je vais vivre de mes livres. Et je n'aurai pas besoin de travailler. C'est pour moi, l'intelligence.
C'est un plan d'action.
C'est ma stratégie.
C'est un plan d'action.
Et je mise sur moi. Alors que tous ces gens qui ne se font pas confiance vont miser sur les entreprises qui vont les foutre à la poubelle à la moindre occasion.
Mais c'est un plan d'action. Je m'excuse, c'est un plan d'action, Robert, je t'ai coupé. C'est un plan d'action qui peut être idéal ou adéquat dans ton époque, dans cette époque. Mais avant, si on prend la dynamique de ton papa, il faut dire qu'on était encore dans un autre système de société, dans une autre mentalité. Donc, il travaillait dans une entreprise où il n'avait peut-être pas le goût. Mais en tout cas, sa force était certainement plus grande que les gens d'aujourd'hui, parce qu'il fallait tenir 20, 30, 40 ans dans une entreprise. C'était difficile. Et je trouve qu'ils ont plus de courage qu'au jour d'aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être balancer et avoir un juste milieu aussi entre ça.
C'est bien dit.
Donc, entre courage,
façon,
entre productivité,
André
entre
Moreau
laisser aller,
a fait exactement la même stratégie, puis aujourd'hui, il vit de ses livres. Il y a une certaine époque, il a imprimé des livres. Il utilisait ses cartes de crédit pour payer ses livres. Il y avait comme 20 cartes de crédit, une payait l'autre,
mais
jusqu'à temps qu'il fasse
faillite.
Ben, moi, je parle pour les exceptions. Cette émission s'adresse aux exceptions. Monsieur Tout-le-Monde ne m'intéresse pas personne. Parce que le monsieur Tout-le-Monde ne sera pas intéressé par ce que je dis. Lui, il veut travailler. Il va se jeter dans le monde du travail puis il ne va même pas écouter cette émission.
Je
ne
suis pas d'accord avec toi qu'il n'aurait pas une écoute là-dessus.
Il va écouter la télévision dont Marie parle parce que c'est ça qu'il veut entendre. Il veut se faire remplir par tout le monde, se faire dire comment penser, puis se faire dire qu'il faut qu'il dépense pour un nouveau iPhone à tous les trois mois. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Et je ne pense pas que les gens qui s'intéressent au bonheur et à la conscience vont s'intéresser à ces choses-là. Donc, je parle pour le petit nombre. Et puis, je suis très content avec ça. Je ne cherche pas non plus à toucher tout le monde. Je sais que c'est impossible dans un sujet tel que le mien. Et si moi, je peux toucher et aider quelques-uns comme moi qui sont déprimés, qui sont en désespéré parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas puis qu'ils voient que moi, je l'ai fait. Okay? Je suis très heureux aujourd'hui. J'ai un travail. C'est vrai que je n'ai pas travaillé pendant 10 ans, mais j'ai utilisé toute mon intelligence quand j'ai décidé de travailler. Et qu'est-ce qui m'a mis au travail? Ce n'est pas le fait que j'avais besoin d'argent parce que j'étais prêt à déménager, mais j'ai vu dans un des livres d'André Moreau, l'assisté social devient un assisté mental. Là, j'ai compris pourquoi je devais travailler. Pas parce que j'avais besoin d'argent, parce que sinon, j'allais devenir un assisté mental que je n'allais pas pouvoir penser par moi-même parce que je recevais l'argent toujours du gouvernement. J'avais juste une manière de faire de l'argent. Donc, pour moi, c'était philosophique. Ce n'est pas les considérations physiques parce que j'aurais pu m'en sortir. Je suis capable d'aller chercher de l'argent. Je suis capable d'aller chercher des objets. Je suis capable d'aller chercher la nourriture n'importe où. Je l'ai déjà fait. J'aurais pu continuer. Mais... j'ai compris que si je voulais m'intégrer dans le monde, ben, il fallait que j'essaye. C'est quoi le marché du travail? Mais vous voyez que derrière ma tête, j'ai quand même ma stratégie pour ne pas travailler le restant de mes jours. J'y pense à chaque jour. À chaque jour, je travaille à ça. Je crée des nouveaux sites web. Je crée des portails pour vendre mes livres. J'ai 3 livres en espagnol maintenant. J'ai créé un site web dernièrement. J'en ai vendu. Pas beaucoup, mais éventuellement, je mettrai le doigt sur quelque chose de sensible et je ferai de l'argent sans travailler.
Mais c'est sûr que là, on parle de deux productivités différentes. Il y a la productivité, justement, artistique, comme tu fais, Nicolas, qui permet justement d'avoir la connexion de l'être et puis de produire et de t'exprimer. Et il y a la productivité qui est au niveau économique et que la plupart des gens sont dedans et sont complètement... enseveli par ça en fait et enchevêtré là-dedans et c'est très difficile de s'en sortir. Mais en revenant aux gars, aux hommes très très riches, etc., dont tu parlais tout à l'heure, c'est sûr qu'ils vont déléguer ces gars-là parce qu'ils ont un empire en dessous eux. Ils seraient idiots de continuer d'aller travailler, vaut mieux aller jouer au golf, là c'est plutôt sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont passés du jour au lendemain comme ça. Là, ils ont travaillé d'arrache-pied, c'était des gars aussi qui travaillaient 12-15 heures par jour. Donc c'est ça aussi.
Il y a des gens qui ont vécu dans leur voiture.
Il y a des phases, vous voyez comme moi, maintenant, je suis obligé de travailler, mais je garde toujours en ma tête que ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est de ne pas travailler, mais de produire sans travailler.
Ils ont été assez peut-être intelligents justement pour concentrer sur une courte période suffisamment de productivité pour justement ensuite laisser couler et laisser venir, les choses. Et bien souvent aussi, ces gens-là ont un certain lâcher-prise et une certaine façon de penser.
Excuse-moi. Non, il y a deux livres qui me viennent à l'idée. Deux auteurs américains dans ce cas ici. Robert Kiyosaki avec Cashflow Quadrant qui explique une certaine philosophie de la... Puis qui touche exactement à ça. Tu sais, on parlait tantôt des catégories qui font en sorte que tu sais, as le travailleur, le professionnel, les compagnies. Puis à la fin, c'est ça, c'est l'argent qui fait l'argent à la fin. C'est ça la productivité ultime. C'est quand l'argent fait seulement de l'argent. Est-ce que c'est bien pour la société? C'est une autre conversation différente parce que c'est pas vraiment une société saine qu'on a, donc je pourrais pas dire que oui. Mais est-ce qu'on a le choix en termes de modèle jusqu'à temps que la cause des causes soit vraiment remise en lumière? Tu sais? Donc, dans ce sens-là. L'autre chose, c'est de penser en termes de système. C'est vraiment en termes de système. Autrement dit, je peux aller manuellement aller à la pêche, mais si j'ai 20 cannes à pêche automatiques, je peux faire plus de pêche avec ça. Là, donc, dans ce sens-là, des systèmes, il faut penser en termes de système si on est pour arriver à se libérer de la tâche crue là, qu'on a à faire.
Il y a des manières d'agir, des fois, qui ne sont pas intelligentes et d'autres qui sont intelligentes. Par exemple, je me rappelle quand j'étais jeune, ma sœur travaillait chez Metro, par exemple. Elle travaillait au salaire minimum, elle travaillait des heures pour faire... Moi, je faisais une illustration. J'ai été engagé par une compagnie d'illustration. Je faisais une illustration, je chargeais 400$. Ça me prenait une heure à faire. Pour moi, je travaillais une heure, je faisais 400$ direct dans mes poches. Elle travaillait je ne sais pas combien d'heures pour avoir le même salaire que moi. Ça en faisait voler la moitié par le gouvernement. Alors, qui est le plus intelligent? Pour moi, l'intelligence, c'est de sa capacité d'avoir le plus de temps possible à côté pour s'amuser, ou faire de la méditation, ou faire quelque chose que tu aimes. Et clairement, elle n'avait pas ce temps à comparer à moi. Donc, quelqu'un peut faire la même chose. Moi, quand j'ai commencé à travailler, au début, je n'avais pas de ressources. Je savais qu'aucune entreprise allait me prendre. Je n'y ai même pas pensé. Je suis allé jouer devant le métro Mont-Royal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, je vais mettre mes livres, je vais essayer de les vendre. Et j'avais mis une petite affiche. C'était marqué trois questions sur le bonheur pour 5$. Et bien, les gens s'arrêtaient et ils me donnaient 5$. Puis, ce n'était pas du travail. Et je faisais du cash. Ouais. Pour moi, c'était ça, l'intelligence brute. C'est-à-dire que tous les gens qui allaient à leur bureau, etc., eux autres, ils étaient fatigués. Moi, je m'amusais, puis je me faisais payer.
C'est sûr, sauf qu'il faut voir un peu aussi pour les autres. Ces gens-là, justement, ils sont tellement pris dans une certaine structure qu'en fait, pour eux, c'est un saut de faire ça. Là. C'est comme, ils vont avoir peur. Là, c'est bien comme, sûr. C'est sûr. Parce que là, c'est une déstructuration complète. Là. Si tu dis à la personne, bon, allez, arrête ci, arrête ça, l'autre, non. C'est sûr qu'elle ne peut pas, là. C'est clair. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience fulgurante par quelque chose de bien plus fort que tout leur quotidien qu'elles ont depuis des années. T'sais.
Pour tout arrêter, il faut avoir rien à perdre. Moi, j'ai encore rien à perdre à mon âge. Je n'ai pas de maison, pas de tout. J'ai rien à mon nom. J'ai juste des toiles puis des livres.
C'est ça. Sauf qu'eux, ils pensent qu'ils ont tout à perdre. C'est ça le problème.
Voilà. Donc, tous ces gens qui sont empêtrés dans des. Ils ont les enfants,
l'hypothèque.
L'hypothèque, etc. Ils ne peuvent pas. Moi, j'en connais des gens qui sont proches de moi qui ont ça. Je les vois, leur douleur. Ils sont prisonniers. Ils n'ont pas le choix. Mais c'est eux autres qui se sont mis dans ça. Moi, je montre par mon exemple que c'est possible de vivre sans avoir de dette. J'ai jamais eu de dette. Je n'achète rien si je n'ai pas d'argent pour le payer, moi.
Mm-hmm. C'est une réflexion profonde, ça, de voir comment nos possessions nous possèdent.
Nous allons vous laisser avec la chronique de Safia, l'art du bonheur. Et puis, on revient avec ce thème. Plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit.
Bonjour à tous, ici Safia, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Selon vous, quel facteur est le plus puissant pour influencer votre bonheur? C'est gratuit, c'est facile et c'est garanti. Le point G du bonheur qui commence par un G, c'est la gratitude. La clé de ton bonheur réside en combien reconnaissant tu es capable de te montrer. Exprimer sa gratitude. Ce n'est pas juste dire « merci ». C'est un tour étourdissant, comme la valse en trois temps. Constater l'autre en face de soi, accueillir son offrande quelle qu'elle soit et en considérer son coût. Ensuite seulement, ainsi animé du sentiment, exprimer sa reconnaissance. Dire « merci ». Exprimer sa gratitude pour le cadeau qu'est ce jour. Une attitude de gratitude qui permet de vivre ce qui se présente, au lieu de se fixer sur ses manques. C'est une idée fausse communément admise de croire que l'on a besoin d'un fait héroïque pour célébrer sa vie, d'un exploit à récompenser pour être satisfait de soi. Remercier avant d'avoir reçu, nous dit Alain. C'est maintenant, en partant de là où vous en êtes et avec ce que vous avez, qu'il faut célébrer sa vie. Dire merci, c'est finalement cela, une attitude qui célèbre la vie. Les recherches l'affirment. Les bienfaits de la gratitude sont multiples et alimentent un cercle vertueux. Le simple fait de consacrer 2 minutes par jour à se dire « je suis reconnaissant d'être en vie » a des conséquences insoupçonnées au niveau physique, psychologique et relationnel. Tel est le constat de l'étude d'Edmond et McCullough, où les personnes exprimant leur reconnaissance se sont révélées plus satisfaites de leur vie, plus énergiques et plus optimistes envers l'avenir. Elles ont également de meilleures relations sociales, sont plus enclines à apporter leur soutien et à pardonner. Plus surprenant encore, elles sont en meilleure santé et vivent plus longtemps. Alors, comment fait-on? La gratitude a besoin de pratique parce qu'elle ne vient pas naturellement. Accordez-vous le droit d'être heureux et exercez-vous. Un moyen efficace? Tenir un journal de gratitude pour y relever ses précieux moments. Situation, goût, sensation. Notez-en 3 quotidiennement avant de se coucher pendant 3 semaines et vous obtiendrez une progression considérable de votre bonheur. Aucune limite d'âge grâce à la simple question « Qu'est-ce qui t'a fait plaisir aujourd'hui ?» Hein, Asia ? Le seul impératif est de rester vigilant. Ne pas le faire machinalement, mais être précis afin de ranimer sensations et émotions. Pour les plus avancés, écrivez une lettre de gratitude à une personne qui a été importante dans votre vie et envoyez-lui. Appelez-la, ou mieux, allez lui rendre visite pour la lui lire. L'effet sera décuplé. Exercez-vous au pouvoir de la gratitude et n'hésitez pas à me faire part de votre expérience sur proposurlebonheur.com. C'était Safia dans L'Art d'être heureux et pour votre écoute, je vous dis merci. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
Don't worry, be happy now.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit ». Moi, je suis de ceux qui apprécient beaucoup l'oisiveté créatrice. Je crois que c'est un facteur d'avancement dans l'humanité. À une certaine époque, dans la Grèce antique, il y avait une partie de la population qui ne travaillait pas. On parle souvent que c'est le début de la démocratie. Ce n'est pas nécessairement à ce moment-là que ça a commencé, mais c'était les hommes, et c'était surtout les hommes riches, qui ne travaillaient pas. Et c'est un des moments de l'humanité où il y a eu un bond incroyable au niveau de l'art, au niveau de la philosophie. Et c'est parce que ces gens passaient leur temps à réfléchir. Ils n'avaient pas rien d'autre à faire que de s'amuser, réfléchir sur le monde. Et puis, c'est ça qui fait, à mon avis, l'intelligence et fait naître la beauté. Parce que quelqu'un qui travaille toujours, qui est toujours le nez dans ses livres ou dans son bureau, n'a pas le temps d'apprécier la beauté. Combien de gens se lèvent le matin, il fait encore noir, et ils vont travailler, ils reviennent le soir chez eux, la ligne fait noir, ils ne voient jamais la lumière du jour. Comment tu peux exprimer la beauté quand tu es toujours dans un cubicule? Tu sais, je parle beaucoup là, pour le plus grand dénominateur commun, là, des fonctionnaires, des gens qui travaillent dans des petites boîtes et puis qui ne voient jamais la beauté du ciel. C'est lancé.
Ben, jusqu'à temps que l'inspecteur Smith vienne te chercher, hein, tu sais, comme dans la matrice. Il faut que tu changes de cubicule habituellement.
Non, mais là aussi, il y a une notion de plaisir. Là, on parle de système un peu robotique, du matin jusqu'au soir, et puis je m'empêche de voir la lumière du jour. Mais moi, je suis sûre que quand tu es pris dans un projet, ou même toi, Robert, tu sais, quand on est pris dans notre bulle créative, on peut y passer 12 heures sans voir la lumière du jour. Et puis dans ces cas-là, tu sais, on se ferait tout autant reprocher de ne pas profiter du bonheur, de ne pas profiter des autres, ou ne pas leur donner du temps aux gens qu'on aime, aux gens qui nous entourent.
Mais tantôt, on a parlé que quelqu'un peut faire la même chose, mais ça dépend. Qu'est-ce qui le motive? Est-ce qu'il fait pour l'argent? Je me rappelle très bien qu'une époque où Robert travaillait comme un fou, puis il était vraiment pas content, là. Mm-hmm. Puis s'il travaille le même nombre d'heures sur des choses qu'il aime, faire des massages, faire des sites web, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Que l'argent vienne en
le temps. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, je peux pas parler d'économie. Tu parlais de temps. Donc j'ai dit que dans ces cas-là, le temps, tu ne le redistribues pas non plus, tu n'en profites pas non plus. Tu es bien et tu as une plénitude dans ce temps-là, parce que tu es dans ta bulle et que c'est productif. Mais il n'empêche que si on parle de temps pur ou d'attention des autres, tu ne leur en donnes pas.
Tu sais, moi, je constate que quelqu'un n'est pas intelligent s'il fait juste une chose. Si t'es pas global, si par exemple t'as pas de temps pour faire l'amour, si t'as pas le temps pour des loisirs, si t'as pas le temps pour aller au gym, si tu travailles tout le temps, pour moi, tu vas finir par planter parce que tu fais toujours la même chose. C'est une vie pauvre. Mm-hmm. Et pour moi, quelqu'un qui est comme ça n'est pas intelligent parce qu'il ne pense pas à long terme. Il pense vraiment au moment présent, là, puis il va peut-être même prendre de la coke pour travailler plus, ou peu importe, il va trouver le même. Mais cette personne-là va crever d'une crise cardiaque à 45 ans, 50 ans. Il y a beaucoup d'exemples dans ce style-là. Moi, j'ai décidé d'avoir une vie intégrale, c'est-à-dire que je vais moins travailler et je vais me donner des moments pour moi, des moments pour être avec ma compagne.
On sort de l'autodestruction?
Tu peux pas juste manger, par exemple, toujours la même chose. À un moment donné, ça vient comme, OK, ça prend de la diversité, puis un être humain, surtout, ça a besoin d'être vaste. Puis si, pour moi, qui est artiste, par exemple, si je faisais toujours la même chose, je serais pas intéressant. Je me rappelle très bien qu'à une époque, j'étais très irrité par les BDistes, quand je faisais beaucoup de bandes dessinées. Il y avait beaucoup de BDistes qui faisaient de l'auto... pas de l'autoportrait, mais ils racontaient leur vie dans leur bande dessinée, mais tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dessinaient tout le temps. Donc, ils se dessinaient en train de dessiner, mais il n'y avait pas de femme dans leur vie, il n'y avait pas de loisirs. Fait que c'était plate, c'était vraiment nul.
Mais tu parlais de Bouddha, etc. Qu'est-ce qu'il faisait à longueur de journée? Il méditait encore. Il faisait tout le temps et tous les jours la même chose.
Bouddha,
et pour ça, ça ne l'empêche pas, ça ne l'a pas empêché de s'élever.
Bouddha, jusqu'à un certain âge, son père était un roi, donc il avait les meilleurs professeurs, il était un érudit. Et quand il a compris que la souffrance existait, il a décidé de sortir pour y toucher, être en contact. Et puis là, après, il s'est assis et puis là, il a c'est centré. Quelqu'un qui travaille, il n'est pas centré sur lui, il est centré sur quelque chose à faire. C'est ce que moi j'ai fait, j'ai arrêté, j'ai dit foutez-moi la paix, je veux me concentrer sur moi.
Mais ça serait quoi alors l'idéal entre être centré et puis répondre finalement à la pseudo-demande de la société? Parce que de toute façon, que tu le veuilles ou pas, tu auras quand même des factures à payer, tu auras quand même un loyer. Donc c'est quoi le juste milieu? C'est ça ma question. C'est quoi l'outil alors que vraiment il y aurait à dire ou à proposer pour dire ok, tu peux autant te recentrer que travailler avec le plaisir et puis de là, tu pourras justement, l'argent sera un outil pour payer ce qu'il y a à payer, point final.
C'est pas une réponse simple, puis je pense pas qu'il y a juste une réponse, si je me permets d'interjecter.
Vas-y, réponds.
Non, il n'y a pas qu'une réponse,
on peut considérer n'importe quelle chose comme quelqu'un qui travaille à temps plein, qui essaie de aussi peut-être d'aller aux études en même temps afin d'aller chercher une spécialité. Quelqu'un qui passe après ça plutôt au côté entrepreneurial. Quelqu'un qui fait un changement du côté d'un temps plein, un job à un temps partiel pour lui permettre d'explorer d'autres avenues et faire une transition. Tu sais, il n'y a pas juste une manière de couper les choses hein, d'une certaine façon. Mais on se doit, d'après moi, d'être... intègre et puis de suivre qu'est-ce qui est vrai. T'sais, quand tu commences à t'apercevoir qu'il y a tellement de choses qui sont pas ce qu'ils devraient être, tu dois prendre action. C'était pour être intègre avec toi-même.
Toi, Marie, qu'est-ce que t'en penses?
Beaucoup de choses, mais peut-être trop parce que j'arrive pas à sortir les mots vraiment. Là, mais déjà, j'en ai parlé un peu tout à l'heure par rapport à une solution, mais c'est vrai que, comme tu dis, passer d'un temps plein à un demi-temps, etc., des options comme ça, c'est sûr. Mais moi, je dirais le plus, c'est d'être conscient le plus possible. Parce que plus tu es conscient, plus les choses que tu es en train de faire, même si c'était lourd, fatigant avant et tout, ça va se transformer. Vous allez voir, là, c'est vraiment miraculeux. Plus vous mettez la conscience dans ce que vous faites, plus ça change vraiment tout. Alors que vous allez faire quand même la même chose, mais vous allez le prendre d'une autre manière. C'est ça la différence énorme. Là,
ça va être moins lourd.
Bien évidemment, c'est sûr. C'est juste parce que c'est votre mental qui est tout le temps en train de faire. C'est comme une machine infernale, comme un chien qui essaye de s'attraper la queue, là, qui tourne sans arrêt, ça va nulle part. Et c'est dans la négativité. Ça fait que c'est sûr que si vous mettez de plus en plus de conscience, il va ralentir, voire même s'arrêter à certains moments. Et là, vous allez vraiment avoir l'éclair de génie, l'énergie de l'être qui va surgir. Et là, votre vie va être complètement transformée, alors que vous allez toujours à la même heure, au travail, nanana. Sauf que vous allez le prendre d'une autre manière. Là, c'est totalement différent. C'est juste vous-même, le mental là, qui vous fait réagir comme ça. C'est tout. Là, tu sais.
Moi, mon truc personnel, c'est d'enlever les faux besoins. Et ça, je l'ai toujours fait. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai enlevé tous les faux besoins parce que moi, mon objectif, c'était de me reprogrammer. Je considérais qu'on m'avait programmé de force depuis mon enfance. Alors, je me suis rendu compte que autour de moi, tout le monde avait acheté leurs meubles dans les rues. J'ai trouvé mon matelas dans la rue. J'ai trouvé tous mes meubles de ma maison. J'ai fourni ma maison au complet. En cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait une banque de nourriture proche de chez moi. J'étais aux anges. Je me disais que j'ai aucun besoin de travailler. J'avais juste mon loyer qui était 500$ à ce moment-là, l'électricité, le téléphone. Donc, j'avais juste besoin d'un 600, 700 par mois. C'était très facile avec l'aide sociale d'y arriver. Et j'ai réduit mes besoins au minimum. Et encore aujourd'hui, maintenant que j'ai de l'argent, je reste dans cette simplicité volontaire. Quand ma compagne, elle qui aime voyager, me dit on va voyager, moi je dis non merci, je ne veux pas voyager. Si je voyage un jour, on va tout me payer. Si j'y vais, c'est parce qu'on m'aura tout payé mon voyage, puis qu'on voudra par exemple que j'aille donner une conférence à Paris. À Paris, on serait accueilli chez des gens, des amis qui vont me payer pour que je sois là. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour voyager. Un peu comme à l'époque où ma sœur travaillait pour aller faire du ski, par exemple, alors que moi, je ne voulais pas travailler. Donc, je n'avais pas de sortie. Je passais mon temps à dessiner, faire de la bande dessinée. Mais aujourd'hui, j'ai 12 albums de bande dessinée que je me rappelle que, oui, je me suis privé de certaines choses, mais en même temps, je me suis donné du temps. Et pour moi, c'est ça la grande richesse d'un artiste. Si tu cours toujours, tu n'auras pas de la belle inspiration. C'est quand tu arrêtes, tu regardes le mur ou juste le ciel ou tu ne fais rien. C'est là que tu as la vraie inspiration. Ouais, ça sort, ça jaillit.
C'est vrai. Moi, je trouve que la plupart du temps, l'erreur que les êtres humains font, c'est de croire que c'est la société qui peut tout leur apporter, alors que c'est eux-mêmes qui peuvent tout s'apporter. En étant vraiment en connexion avec l'aide, tu peux absolument tout avoir, comme tu disais, les affaires dehors et tout. Moi, le nombre de fois que j'ai pu faire des demandes, et c'est arrivé exactement dehors, exactement la forme que je veux, la couleur que je veux, etc. J'ai fait aussi pour des gens des choses complètement qui sortent du miracle, simplement en y pensant, en méditant. une fois ou deux, des jobs qui étaient absolument impossibles, comme par exemple British Airways. Là, elle voulait, une amie à moi, elle voulait être hôtesse de l'air à British Airways. Bon, ils ne prennent pas des gens au-dessus de 30 ans. Et ces trois examens à passer, et se passaient de 2 mois à chaque. Et elle allait avoir 30 ans 3 mois plus tard. Et moi, j'ai simplement pensé à ce qu'elle passe le troisième test tout de suite. Et elle a reçu le dossier, elle n'a même pas fait la demande. Ils ont reçu le dossier, sa candidature et tout ça. Et elle a passé tout de suite le dernier test. Et elle a été hôtesse de l'air, British Airways, comme ça. Ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de British Airways. Et plein d'autres histoires comme ça, je peux vous en raconter toute la journée et nuit. Là. Mais c'est simplement parce que quand tu es dans l'aide, quand tu es Dieu, tu peux créer absolument tout ce que tu veux.
Je suis assez d'accord que le côté où s'accorder des pauses, des breaks quand on en ressent le besoin, et puis comme dit Nicolas, de se poser juste devant le mur ou tout simplement dans le vide, est la meilleure source d'inspiration. Et puis que, au niveau du reste, et bien peut-être tout simplement donner aux gens de dire que quand vous sentez justement cette vibration qui arrive et que vous sentez que votre corps se tend, que votre esprit est saturé, que bien souvent d'ailleurs quand ils le font, c'est déjà un petit peu trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Moi, j'inviterais effectivement à prendre le temps de ne rien faire.
Excellent.
Mais tu sais, chacun doit étudier sa vie, penser. C'est ça, il faut faire un travail sur soi. C'est de regarder qu'est-ce que tu es. Qu'est-ce que je suis venu faire? Moi, je sais que je suis artiste. Je le savais dès l'âge de 10 ans. Je ne me suis jamais laissé détourner. Et pourtant, la société n'a aucune sympathie pour les artistes parce qu'on est des perdants, des gratteux de guitare, on est des gens qui ne font rien. Mais alors que pour moi, la beauté, c'est une des choses les plus belles dans ce monde. Si je peux inspirer les gens par la beauté que je crée, je sais que je les rends heureux. Et puis, je sais que je contribue. Donc, ma production, mes livres, vont être encore là dans 1000 ans, dans 2000 ans. J'en ai la certitude. Alors que tous ces gens qui travaillent pour une entreprise et qui n'ont rien laissé, et vous travaillez à perte, vous vous faites sucer votre énergie. Et puis, c'est très malheureux parce qu'à la fin de vos jours, vous n'allez rien avoir.
Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que les gens, justement, aiment les artistes. C'est ce qui les fait décrocher. Moi, je le vois autour de moi ou dans mon travail. Le côté artistique est très apprécié des gens. En passant.
Non, ils ont besoin de le voir à l'extérieur parce qu'ils ne le sont pas. C'est eux-mêmes, c'est ça le truc.
Eh bien, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On va vous laisser avec une chanson de Les Carañas qui s'appelle « Travailler moins pour vivre ». Et merci à tous.
Merci Nicolas.
Bonne semaine
merci.
À tous. Venez écouter l'émission sur propossurlebonheur.com.
Pourquoi donc cette dictature du pouvoir de la monnaie pousse les gens à se lever, à faire des boulots qu'on déteste? Moi j'aime pas travailler. Moi j'aime pas travailler. Je préfère rester couché. Tous les jours pour moi c'est férié. Je veux rien demander de la journée. Je préfère chômer toute l'année. Toute l'année. Comme solution, loin de grand Babylone, circus et être libre pour de bon.